Dime que son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino
Les racines du ciel. Réalisé par Clotilde Pivin, préparé par Marie Dalquier, avec à la prise de son Manuel Couturier. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle de l'humour dans l'enseignement spirituel en compagnie de Jean-Louis Monoury. Jean-Louis Monoury, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Lily.
Bonjour Frédéric. Bonjour Jean-Louis Monoury.
Bonjour.
Alors, vous êtes assez inclassable, donc pour vous présenter, je voudrais dire évidemment que vous avez été professeur d'économie à l'université de Nice, mais ce n'est pas pour ça que nous vous avons invité, c'est plutôt parce que vous êtes romancier, conteur, poète et surtout que vous vous êtes intéressé depuis très longtemps à la question de l'humour et de la sagesse. Vous avez publié Au seuil, en 2001, Le rire du somnambule, humour et sagesse, dans lequel vous vous intéressez à toutes les traditions, à un certain nombre de traditions en tout cas, qui enseignent la sagesse à travers l'humour. Mais aussi, vous avez publié pas moins de 5 ouvrages, dont le dernier d'ailleurs, sur la tradition d'humour de Nasreddin Hoxha, dont vous nous direz quelques mots tout à l'heure. Et en particulier, donc, le dernier, chez Albin Michel, La sagesse extravagante de Nasreddin. Donc, voilà, vous êtes là pour nous parler de sagesse et d'humour, puisque dans cette émission, n'est-ce pas Frédéric, nous avions très envie de rire un peu.
Oui, oui, c'est vrai, parce que le rire est présent dans certaines traditions. Il est même un élément essentiel, vous allez nous le raconter, hein, de l'enseignement. C'est vrai qu'il y a des sages qu'on connaît un peu comme Chuang Tzu et d'autres qui ont énormément d'humour. Et puis, on a l'impression qu'il y a peut-être, et c'est ça qui, évidemment, peut nous surprendre dans notre tradition occidentale, il y a peut-être d'autres religions comme le catholicisme, qui ont un peu moins d'humour. Alors, est-ce que vous pouvez déjà, avant qu'on rentre dans le détail, nous dire un petit peu quels sont justement les courants spirituels où l'humour est le plus présent et ceux où ils sont moins, et peut-être pourquoi ?
C'est-à-dire que la présence de l'humour dans un enseignement spirituel suppose un certain nombre de conditions. Bon, je ne vais pas ici toutes les énumérer ou les analyser, mais disons que cela suppose que les mythes fondateurs des sociétés ne soient pas trop prégnants, ne soient pas trop sacrés ou trop intouchables. Bon, ça suppose également que l'individualisme soit une valeur déjà présente, c'est-à-dire il faut qu'il s'agisse de courants dans lesquels l'individu lui-même est appelé à évoluer et à se spiritualiser, en quelque sorte. Bon, il y a déjà deux conditions qui excluent, me semble-t-il, pas mal déjà de cultures anciennes, je crois, bon, sans en faire ici une analyse. Bon, il n'en reste pas moins que ces deux conditions sont réalisées aussi bien naturellement dans le christianisme, dans l'islam, dans la culture juive, c'est-à-dire les traditions monothéistes. Et puis, c'est également présent, pour les mêmes raisons, dans les cultures d'Extrême-Orient, notamment à travers le bouddhisme, notamment sous sa forme zen, où il est peut-être le plus évident, et aussi dans le taoïsme, sur le chan, enfin bon, la forme qu'a pris le taoïsme philosophique en Chine. Voilà. Donc c'est à peu près dans cette gamme de traditions que j'ai travaillé.
Alors expliquez-nous, selon vous, quelle est la tradition qui a le plus d'humour et celle qui a le moins d'humour ? Comme ça, c'est une autre manière de poser la question plus précisément.
Alors là, je crois que la palme revient incontestablement à deux traditions qui sont assez éloignées à tout point de vue par ailleurs. Et d'ailleurs, il est étonnant de voir que j'ai trouvé une ou deux histoires qui, à des milliers de kilomètres de distance, disent à peu près la même chose, sous la même forme, comme s'il y avait des archétypes. Alors c'est d'une part l'humour juif et d'autre part l'humour zen. Voilà, ce sont les deux formes, bien que ce soit des humours très différents qui n'ont pas du tout les mêmes composantes ni le même rire, on pourrait dire, ce sont quand même là que l'humour est le plus consubstantiel à l'enseignement.
Alors on va le développer juste avant. la tradition qui a le moins d'humour pour vous?
Ah ben alors c'est la tradition chrétienne sous sa forme romaine catholique.
Et pour quelle raison?
Je crois que ça vient du fait que le Christ s'est incarné, qu'il est mort pour l'humanité de façon atroce et qu'il est impossible de se moquer ou de prendre une distance vis-à-vis des enseignements de l'Évangile. L'homme est né souffrant, il est né pour souffrir et il ne peut se sauver que par la souffrance, alors que le bouddhisme enseigne exactement le contraire, hein, que l'homme est effectivement est souffrant mais qu'il doit se libérer de la souffrance. Qui ne promet aucun paradis.
Oui. Voilà. En vous écoutant, je ne peux pas m'empêcher de repenser au nom de la rose d'Umberto Eco,
oui.
Où effectivement il avait montré à travers cette question, le Christ a-t-il ri? Et est-ce que Aristote avait considéré que le rire était une vertu ou un vice?
Oui, c'est le diable qui rit dans le christianisme, dans le catholicisme.
Oui,
c'est le diable qui rit, il rit de façon sardonique, il rit de plaisir de voir l'humanité souffrir ou se damner. Mais le rire n'est pas chrétien.
On voit pourtant qu'il y a un peu d'ironie dans l'Évangile. Oui. C'est-à-dire que le Christ parfois fait preuve d'un peu d'ironie
alors,
avec Nicodème. Oui,
il y a des écrivains, des exégètes, on peut toujours dire, qui ont prétendu que certaines paraboles du Christ ont une tonalité humoristique. Elle ne paraît pas absolument évidente.
Oui, mais alors justement, peut-être qu'il faudrait faire une différence entre humour et comique, parce que vous avez effectivement ce que vous disiez sur le nom de la rose, Frédéric. On voit bien le personnage qui est contre la comédie d'Aristote et qui veut la détruire, dit bien, parce que quand l'homme rit, il devient le suppôt de Satan, en effet.
Oui, voilà. Oui.
Mais c'est pas la même chose de rire,
non,
de manière grossière, comme le dit ce personnage, encore que je ne vois pas où est le problème, mais enfin voilà, et de sourire à un trait d'humour, parce que finalement, les histoires que vous rapportez dans vos ouvrages, quand vous parlez d'humour juif ou d'humour zen, ça ne fait pas vraiment rire, mais ça provoque une sorte de jubilation et plutôt un sourire. Donc il y a quand même une distinction entre les
oui,
deux.
Oui, alors
deux.
Là, on est dans un domaine assez complexe, un peu, dont les frontières sont assez indécises. Je crois que le rire est communicatif, c'est-à-dire que je sais par expérience que les histoires de Nasreddin, par exemple, racontées en public, provoquent le rire, mais un rire très fort, hein, très immédiat, hein, à condition que ce soit les histoires qui portent vraiment à rire. Et je crois que lorsqu'on est seul, on ne rit pas. Ou alors, si on rit seul, c'est un petit peu étrange. Enfin, ça recèle un peu, ça tient un peu de la folie. Enfin, c'est ce qui est communément pensé. Et donc, je crois que seul, on sourit. Mais je crois que, parce que le sourire n'est pas, comment dire, il est plus discret, plus intime. Bon. Et le rire, évidemment, c'est une extériorisation d'un plaisir qui est partagé. Donc je crois que certaines histoires seules font sourire quand elles sont racontées en public, d'un certain public, parce qu'il faut aussi qu'il y ait une communauté de rieurs. Si vous voyez rire quelqu'un d'une chose que vous ignorez, c'est pas drôle, c'est plutôt triste pour vous. Donc en général, ça agace plutôt de voir les autres rire d'une chose que vous ignorez. Mais quand il y a une communauté de rieurs, ce qui sera le cas dans le cas d'un enseignement où il y a, mettons, un maître ou quelqu'un qui en tient lieu, et des élèves ou des disciples, des aspirants, des chercheurs, comme on veut, ils sont tout prêts à rire de ce qu'on va leur dire, parce qu'ils savent bien que si le maître leur raconte quelque chose de drôle, c'est à dessein. Donc ça va provoquer le rire. Donc la différence entre rire et sourire n'est pas aussi tranché. Je crois que ça dépend beaucoup du contexte.
Alors, j'aimerais qu'on parle un peu de la fonction du rire. Moi, j'ai toujours eu un peu l'impression que le rire mettait une distance. C'est-à-dire que ça permettait de se distancier d'une situation qui peut être d'ailleurs des fois très tragique. Et on dit mieux vaut en rire.
Voilà, exactement, oui. Dans son dictionnaire philosophique qui vient de reparaître, André Comte-Sponville dit que le rire résulte de la confrontation entre la réalité et les prétentions du sens. Et je trouve cette formulation me parle beaucoup.
Mais expliquez-la un petit peu.
Oui, alors le rire résulte, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont intéressés au rire, à essayer de définir quelles en sont les raisons.
Bergson notamment.
Bergson, mais il y en a eu d'autres, hein, beaucoup, depuis l'Antiquité. Et personne n'arrive vraiment à saisir la nature, parce que Il ne faut pas substantialiser le rire. Il y a beaucoup de types de rires différents aussi. Hein. Il y a un auteur américain chrétien dont le nom m'échappe pour l'instant. Il a dit, du point de vue chrétien, il y a trois types de rires. Il y a le rire innocent de l'enfant qui rit de plaisir. Il ne rit pas de confrontation avec la réalité. Il rit de joie. Il y a le rire de l'adulte qui est celui qu'on dit actuellement, c'est-à-dire le rire de quelqu'un qui s'est fait des illusions sur lui-même, sur le monde, et qui tout d'un coup découvre, par un éclair de vérité, par une sorte d'illumination, entre guillemets, qui découvre que ce n'est pas ce qu'il croyait, et ça le fait rire dans un mécanisme d'autoprotection. Et puis il y a le rire du sage réalisé, c'est-à-dire le sage qui est arrivé au bout du chemin et qui rit de joie, enfin qui rit.
Et du coup,
par exemple, je me souviens que dans Montaigne rapporte à propos d'un sage, je ne sais pas Démocrite, mais Démocrite qui était également un rieur, et il parle d'un sage de l'Antiquité qui riait tout le temps. Et alors les gens, ça inquiète évidemment. On vient le voir et dit: mais pourquoi tu ris? Tu ris tout seul? Il dit: oui, je ris tout seul. Mais pourquoi ris-tu tout seul? Il dit: mais je ris de rire tout seul.
Mais je crois que c'est Épicure.
Non, c'est pas.
Non, parce que le rire d'Épicure est connu aussi.
Oui, c'est pas.
Démocrite, Épicure.
Voilà. Je ris de ce que je ris tout seul. Genre là, c'est le sommet du rire.
Oui,
alors il rit seul en plus.
Mais alors je pense
qu'il est fou.
Le rire du sage rejoint peut-être le rire de l'enfant qui rit, oui, sans raison. C'est-à-dire que je pense à une phrase de Chuang Tzu qui me plaît beaucoup, vous devez très bien connaître, évidemment, où il dit « Le rire de celui qui a atteint la félicité est sans pourquoi. »
Oui,
on rit sans raison.
Oui.
C'est la joie, finalement.
Oui, c'est
l'expression de la joie.
Mais, Madame Avoir, vous avez évoqué la différence. Enfin, la notion d'humour et de comique sont des notions qu'à mon avis, surtout dans notre contexte contemporain où les humoristes font la loi d'une certaine façon, c'est-à-dire où, comme dit un auteur japonais, ce qu'il y a de pire en Occident, c'est que vous prenez le rire au sérieux. C'est vrai. Et je crois qu'il faut distinguer, en tout cas, le livre dont vous avez parlé est fondé sur cette distinction, il faut distinguer entre l'humour et le comique. L'humour, pour moi, évidemment, ce n'est pas un mot véritablement français. Donc, c'est une référence au type du rire anglais qu'on prête aux anglo-saxons. Pour moi, l'humour, c'est l'autodérision. Dans quoi excelle Nasreddin et excelle l'humour juif, par exemple. L'autodérision, pas forcément uniquement l'autodérision personnelle, mais l'autodérision du groupe auquel j'appartiens. Par exemple, je peux rire... Si je suis juif, je peux rire du peuple juif. Voilà. Bon, si je suis pas juif, non. Mais si je suis juif, je peux rire du peuple juif parce que j'appartiens à ce peuple. Bon, le comique social, c'est un peu de stigmatiser en s'en moquant de gens qui sont, à mes yeux, ridicules. Les femmes dans les blagues machistes.
Oui, les hommes politiques.
Les blondes.
Les blondes, voilà, les blondes, les noirs, les arabes. Alors ça, ce comique, il ne sent pas bon, est assez nauséabond, et donc il est tout à fait à l'inverse
de la sagesse.
De l'humour de sagesse. Il est toujours une autodérision, c'est-à-dire une mise en relation de la réalité avec les illusions que ce qu'on peut se faire sur soi-même ou sur le monde.
Oui, alors justement, peut-être on peut donner une des histoires de Nasreddin. On reviendra après sur d'autres histoires aussi. Mais justement, sur l'autodérision, sur le fait que finalement, cette façon c'est une façon de déchirer, je dirais, ce qu'on croit être la norme et ce qu'on croit être la raison ordinaire. Ça s'appelle la bonne direction. Nasreddin parcourt la plus grande rue du village sur son âne, mais il est monté dessus à l'envers. Bien que tout le monde se moque de lui, le Hodja continue, très digne, sous son énorme turban de savant. Un de ses amis l'apostrophe au passage. « Nasreddin, pourquoi te rends-tu aussi ridicule aux yeux de tous? Quelle est cette comédie encore ?»« Ce n'est pas une comédie, mon cher, c'est une tragédie, » répond-il gravement. « Car en ce qui me concerne, je suis bien en face de la direction que je veux. » Mais cet imbécile qui me porte n'en fait qu'à sa tête. Si je m'étais assis à l'endroit, je ne saurais même plus où je dois me rendre.
Un mot de ce Nasreddin, puisque votre dernier ouvrage s'appelle « La sagesse extravagante de Nasreddin ». Un petit mot sur ce personnage. A-t-il existé? Est-il une figure mythique? Dans quelle ère géographique est-il connu?
Eh bien, pour les Turcs, il a existé. Il y a même son tombeau à Akşehir.
En Anatolie.
En Anatolie, ville dont il serait soi-disant originaire. Mais ce tombeau est un tombeau du 19e siècle, parce que le vrai, c'est déjà toute une histoire, le vrai a brûlé. Et ce tombeau, c'est une porte qui n'est pas entourée de murs. C'est une porte, simplement une porte, qui est fermée à double tour. C'est-à-dire qu'on peut pénétrer par effraction. Bon, ça, déjà, toute une histoire de Nasreddin. Et à l'entrée d'Akşehir, vous avez une statue en bronze qui est relativement récente, où il est sur son âne, mais à l'endroit. Mm-hmm. Et il est installé sur une demi-sphère terrestre, sur laquelle est écrit en turc, « Ici est le centre du monde ». Donc, pour les Turcs, c'est un personnage quasiment historique.
Qui aurait vécu au XIIIe siècle.
Qui aurait vécu au XIIIe siècle. Mais ça aussi, ce n'est pas par hasard, parce que c'est l'époque de Jalaluddin Rumi et l'époque de Yunus Emre, qui sont les trois grandes figures spirituelles. Bien sûr, Rumi est un très grand mystique, ce qu'on n'est pas Nasreddin. Mais quelqu'un a pu dire que Nasreddin, c'était l'ombre comique de Rumi. C'est-à-dire, il dit par la dérision ce que Rumi dit en vrai.
Oui, Rumi qui avait un humour absolument tonitruant.
D'ailleurs,
dans le
Matnaoui de Rumi, il y a des histoires qui sont connues en Turquie comme histoire de Nasreddin.
Absolument. Voilà.
Bon, mais en réalité, je pense que c'est un mythe dans lequel beaucoup de gens, au cours des siècles, ont ajouté des histoires de leur invention. Et pourquoi pas ? Parce que c'est une tradition à la fois mi-littéraire, mi-populaire, mi-orale, mi-écrite. Et puis en plus, c'est un personnage qu'on retrouve dans toutes les cultures turcophones ou les cultures où a été prégnant l'Empire ottoman. C'est-à-dire, on le trouve aussi en Grèce sous des noms divers, même en Italie du Sud, par des noms, dérivés. Et puis naturellement, on le retrouve aussi dans la culture persane et toutes les cultures qui parlent le persan ou le turc. Ce qui fait quand même beaucoup de monde.
Et les Persans disent, mais non, il est Persan, évidemment, chacun
voilà.
se le
Il y a quand même une différence entre la tradition sunnite et la tradition chiite, parce que dans le sunnisme, il est appelé Hoxha, ce qui en turc veut dire tout simplement maître d'école. Nasreddin voulant dire gloire de la religion en arabe, mais je crois que c'est même pas dérisoire, parce que des Nasreddin, il y en a d'autres en langue arabe, donc c'est simplement un nom religieux, mais bon, qui veut dire victoire de la religion, mais je pense pas qu'il faille trop l'interpréter. Tandis que dans l'islam chiite, il est appelé le Mollah, le Mollah Nasreddin, qui est un grade clérical.
Oui, et d'ailleurs,
le premier grade.
C'est frappant que dans la République islamique d'Iran, on continue à publier des histoires de Mollah, alors que le Mollah Nasreddin, clairement, c'est par dérision qu'on l'appelle comme ça. Il a un énorme turban, et c'est très étonnant que, voilà, même dans un...
Oui, mais il y a quand même...
La censure l'autorise.
Oui, mais ça dépend quoi, hein, parce que je pourrais... Enfin, on va peut-être pas trop s'apesantir là-dessus. Vous donnez des exemples dans lesquels il y a encore une censure, hein. Il y a encore une censure sur les histoires les plus salées, parce qu'il y a aussi des obscénités, et puis il y a des choses qui vont très très loin sur le plan religieux. Par exemple, je m'excuse de dire ça ici, mais ça fait partie de la tradition. Par exemple, un jour, quelqu'un vient voir Nasreddin, qui a une réputation de maître en théologie, et on lui dit, Nasreddin, que doivent faire les fidèles à la mosquée lorsque l'imam, pendant son prêche, pète ? Et le Nasreddin dit, mais mon cher, c'est très simple, ils doivent aller chier. Ça, c'est des histoires qui sont pas bien vues. Et puis, il y en a d'autres qui sont pires.
Oui, vous en
que je n'oserais raconter.
Mais enfin, il y en a quelques-unes que vous écrivez quand même.
Oui.
Que vous osez écrire.
Oui.
Mais on a surtout l'impression, quand on lit toutes ces petites histoires, parce que c'est surtout un recueil de contes et d'histoires, ouvrage, que c'est une satire de la religion, c'est-à-dire qu'il se moque de l'autorité.
Voilà, il se moque des religieux, des bigots, des hypocrites, des gens qui croient savoir, qui ne savent rien, etc. Ça, il y a beaucoup. Mais les religieux ne sont pas, enfin, les bigots, les hypocrites, les imams, ne sont pas les seules victimes de son humour. C'est tout le monde, hein. C'est aussi bien les juges, même les gens du peuple, surtout le tyran. Tamerlan.
Oui, alors peut-être justement une histoire de tyran, parce que le fait qu'il soit une sorte de... un lieu où la religion peut être quand même fustigée, voire la mystique d'ailleurs, de temps en temps il se moque aussi des derviches et des mystiques, c'est aussi lié au fait que globalement, peut-être que l'humour est fait pour ça, c'est-à-dire est fait pour lutter de manière très fine et subtile, au fond, contre toute forme de pouvoir et d'oppression, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit politique. Bien sûr. Et j'aime beaucoup cette histoire, il y en a beaucoup hein, dans votre recueil au sujet de donc Timur Lang, le conquérant tout à fait cruel, hein, qui est allé très loin et qui est devenu une figure mythique de l'oppression. Et donc, une de ces histoires est la suivante. Elle s'intitule justement « Un grand mystique ». Timur Lang vient de conquérir la ville d'Akşehir et ses informateurs lui apprennent qu'il y a dans cette cité un homme, un certain Nasreddin Hoca, qui prétend être un grand mystique capable de visions prophétiques. Le tyran le fait aussitôt chercher dans l'idée qu'il pourra peut-être lui dire si l'avenir s'annonce toujours aussi glorieux. « Alors, il paraît que tu as des visions surnaturelles ?»« Oui, Seigneur, Allah a la bonté de m'en combler à chaque instant. » Dans ce cas, lui dit Timur, dis-moi quelle vision tu as en ce moment même, mais je te préviens que si tu n'en as pas, je te coupe la tête. Là-bas, là-haut, dans le ciel, déclame le Hoja d'un ton inspiré, je vois un envol d'ailes de feu, je vois un palais de diamants qui étincelle comme un soleil, je vois couler vers la terre les ruisseaux de lait du paradis d'Allah, je vois... Oh, quelles visions extraordinaires, s'exclame Timur. Saisi de vénération et de crainte, « Ô grand saint, comment fais-tu pour voir ainsi au-delà des apparences, pour pénétrer dans les secrets divins? Dis-moi, maître, quels efforts devrais-je accomplir moi-même pour être ainsi emporté dans les contrées célestes ?»« Il n'y a rien de spécial à faire, hein. La peur suffit. »
Çoktan beri yollarını gözlerim, gönlümün ziyası dost sefa geldim. Hey, 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 hey. Şu garip gönlümün bağım bostanım, bağım bostanım, ayva ile turunç. Nar sefa geldin, ayva ile turunç, nar sefa geldin.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel. Nous sommes ce matin en compagnie de Jean-Louis Mounouri pour parler du rôle de l'humour dans l'enseignement spirituel. Et je rappelle votre dernier livre, La sagesse extravagante de Nasreddin, aux éditions Albin Michel. Lélie Anvar.
Oui, alors ce qui est très frappant, et que d'ailleurs vous expliquez fort bien dans votre livre, c'est que l'humour, c'est aussi quelque chose qui fondamentalement nous met devant le problème de l'identité. Devant le problème de savoir qui on est. Vous avez parlé de distance tout à l'heure, Frédéric, et je crois que c'est cela. C'est-à-dire que l'humour de celui qui le pratique permet de se poser une question fondamentale, qui je suis, et du coup, poser à ceux qui l'écoutent la même question fondamentale, qui êtes-vous ? Et dans votre rire du somnambule, vous rapportez justement une tradition hassidique qui va dans ce sens. D'ailleurs, tout le premier chapitre, en fait, est consacré à ces questions d'identité. Donc, qui raconte la chose suivante. Et on voit effectivement qu'il y a ça se passe dans le cadre d'un enseignement, en fait, de sagesse. Il y avait une fois, raconte Rabbi Enoch, un sot si insensé qu'on l'avait surnommé le golem. Chaque matin au lever, c'était pour lui tout un problème de retrouver ses vêtements et de s'habiller, une tâche véritablement si ardue pour sa pauvre tête qu'il en hésitait le soir à se déshabiller et à se coucher. Mais voilà qu'un soir, raffermissant son cœur contre la quotidienne épouvante, il s'empara d'un bout de papier sur lequel il consigna l'un après l'autre l'emplacement de chacune des parties de son vêtement qu'il quittait. Ici la casquette, là le pantalon, etc., etc. Au matin, tout joyeux, il se leva et prit sa liste. Le pantalon ici, et il l'enfila. La chemise là, et il l'enfila. Ici la veste, là la casquette, jusqu'à ce qu'il eût tout revêtu. Oui, mais... « Moi-même, où suis-je ? » se demanda-t-il soudain. « Où me suis-je donc laissé ?» Le malheureux eut beau fouiller partout, il n'arriva pas à se retrouver. « Ainsi de vous, » conclut le rabbi.
Moi, je peux vous raconter une histoire de Nasreddin qui fait écho. Nasreddin va au marché, il a mis sa belle djellaba, et puis il a pris deux grosses pastèques qu'il tient sous ses bras. Il marche sur le chemin, puis tout d'un coup, devant lui... Il voit un homme qui a la même djellaba, qui porte deux pastèques Et Nassourine se dit, ça alors, si ce n'est pas moi, qui ça peut être? Alors, il marche de plus en plus vite pour le rattraper. Et puis, au moment où il est arrivé, juste derrière lui, il s'arrête et il dit, mais au fait, à quoi servirait-il de me rattraper?
Oui, donc, pourquoi spécifiquement l'humour permet ça? Parce que c'est vrai qu'on a souvent parlé ici de la quête de soi, la connaissance de soi, la manière dont les, que ce soit dans l'Antiquité, les mystiques, Socrate, enfin, tout le monde cherche à se connaître soi-même. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans la connaissance de soi qu'apporte l'humour?
Ah ben, c'est ce qu'on disait déjà tout à l'heure, c'est cette contradiction qui apparaît brutalement entre ce que je crois être le réel, le rapport que j'ai au monde, et puis tout d'un coup je découvre que ma vision est, on ne peut plus, relative, qu'en fait le monde est douteux, comme on dit d'un individu qu'il est douteux, c'est-à-dire qu'il n'inspire pas confiance, je ne le comprends pas, donc il y a un effet de ridicule qui apparaît, de comique, dont je, plutôt il y a une contradiction dont je me débarrasse momentanément par le rire, mais ensuite je peux réfléchir. C'est ça le but de cet humour de sagesse, c'est de faire rire, parce que tout le monde aime rire, on aime être pénétré par le rire, on aime se décharger d'une angoisse ou d'une difficulté par le rire. Donc c'est une sorte de cheval de Troie dans la conscience du disciple ou de l'élève. Le rire pénètre et puis, tout d'un coup, après, quand on ne rit plus, alors là, on se dit, mais au fait, de quoi est-ce qu'on m'a parlé là? C'est quand même, à quoi servirait-il de me rattraper? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est presque un koan zen. Hein, à quoi servirait-il? Qu'est-ce qu'il veut dire, le maître, quand il me raconte ça?
Oui, c'est comme un peu, je pense, une cocotte minute. C'est-à-dire qu'on relâche la pression et le rire permet de faire retomber la pression.
Voilà.
Et du coup, de réintroduire de la réflexion, oui, sans être collé le nez, oui, sur le réel,
oui,
ou sur la poursuite de notre idéal. Parce que souvent, on rit beaucoup de ça. Le décalage qu'il y a entre ce qu'on pense être, ce à quoi on aspirait, et puis ce qu'on est vraiment.
Oui, par exemple, une histoire zen qui est, je pense, assez connue, dans laquelle un élève, mettons, appelons-le Kurosawa, pour rendre hommage au cinéaste, qui vient voir son maître et il frappe. Le maître dit, qui est-ce? C'est Kurosawa. Connais pas. Kurosawa. Non, je connais pas. Va-t'en. Alors, il s'en va. Il revient le lendemain. Toc, toc. Qui est-ce? C'est Kurosawa. Connais pas. Va-t'en. Alors il s'en va. Puis au bout de X fois, il tape tout faiblement. Il dit, allô, excuse-moi, mais qui est-ce, fait le maître? C'est personne. Ah, c'est Kurosawa, mais entre.
Puisque vous parlez des koanzen, expliquez un petit peu pour nos auditeurs qui ne savent pas vraiment ce que c'est, comment est née cette tradition dont j'ai quand même le sentiment qu'elle a peut-être un ancêtre. Je parlais tout à l'heure de Chuang Tzu. J'ai l'impression que c'est presque le précurseur de ces phrases un peu absurdes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou...
Pas tellement. Moi, je perçois plutôt Chuang Tzu comme je l'ai beaucoup lu. Et puis, j'ai lu aussi les merveilleux ouvrages de Romain Graziani, de François Julien et autres, de Jean-François Bitter aussi, qui ont fait des commentaires magnifiques de Chuang Tzu. Moi, je le prends plutôt comme un très grand poète. C'est-à-dire, il énonce des choses qui sont apparemment contradictoires, comme, selon son langage, qui sont entre ciel et terre, c'est-à-dire qui ont toujours une base réelle, mais qui sont en même temps transcendantales, on pourrait dire. Et je le vois comme un poète, plutôt, Chuang Tzu. Et l'origine du koan zen, je ne sais pas. Le koan zen, c'est lié, je pense, à la recherche de l'illumination, qui ne peut pas être atteinte par le mental, d'où l'idée de désarmer le mental par des paroles, des phrases ou des choses qui sont
des paradoxes
qui sont incompréhensibles. Et je pense que la pensée de Chuang Tzu n'est pas véritablement paradoxale.
Ah si, je trouve, parce que je l'ai lu pas mal aussi.
Oui.
Et je trouve justement vous savez qu'un de ses thèmes principaux, c'est de montrer que le langage est arbitraire.
Oui, absolument.
Et qu'une chose peut être son contraire,
oui,
etc.
Oui,
donc
tout
il
à
manie
fait.
Beaucoup les paradoxes.
Oui, 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 c'est vrai. Oui, oui,
et il y a beaucoup
vrai.
D'humour, c'est pour ça que je me suis dit, est-ce que les koan zen ne sont pas inspirés
autant
de Chuang Tzu
que
du bouddhisme?
Je ne connais pas assez le bouddhisme, les origines du bouddhisme Chan. Pour savoir s'il y a véritablement une filiation.
En tout cas, le bouddhisme, les koan zen, sont donc des histoires. Expliquez-nous un petit peu ce que ce sont des histoires paradoxales.
Ce sont des histoires paradoxales, oui, qui à première vue sont des casse-têtes.
Pouvez-vous nous en dire un, par exemple?
Oui, Parfois littéralement, puisqu'ils reçoivent des coups de bâton sur la tête, les moines, souvent, dans les koan sen.
Ben, je ne sais pas. Par exemple, cette histoire dans laquelle le maître met quelque chose au milieu, il trace un cercle autour, et il dit aux élèves, il appelle ses élèves, il dit « qu'est-ce que c'est que ça ?» Non, ça, c'est un koan. Qu'est-ce que c'est que ça? Naturellement, je ne vais pas dire c'est un pot de fleurs. C'est... Donc, si ce n'est pas un pot de fleurs, qu'est-ce que c'est? Alors, les élèves ne savent pas, ils s'en vont. Et puis, quand le maître reçoit un autre élève, il lui dit, tu vois, j'ai mis ce pot-là de fleurs au milieu et personne n'a été capable de me dire ce que c'était. Et à ce moment-là, l'autre donne un grand coup de pied dedans quoi, et dit, mais toi, tu as compris. Et non, personne n'a osé
donner un coup de pied.
Voilà. Et qu'est-ce que c'est? C'est le problème de l'identité. Par exemple, cette histoire extraite des Pères du désert, par exemple, il y a aussi des choses très drôles dans les écrits des Pères du désert. Par exemple, où il y a un vieux moine, il prend un grand torchon, il fait un petit rond rouge au milieu, il appelle ses moignons et leur dit « qu'est-ce que c'est ça ?» Un point rouge. Et le moine est dégoûté, il va voir son confrère, il dit « c'est lamentable, aucun n'a été capable de dire que c'est un torchon ». C'est-à-dire que les gens sont obnubilés par une chose singulière, ils ne voient plus la chose vraie, enfin, ils ne voient plus la vérité qui est tout simplement…
Puisque vous parlez des Pères du désert, ça me fait repenser à l'action du christianisme. Et je me disais, je suis tout à fait d'accord avec vous, il n'y a pas beaucoup d'humour dans la théologie chrétienne. Non. En tout cas, c'est vraiment une tradition. Il n'y a pas personnage équivalent à ce Nasreddin, etc. Par contre, je trouve que chez les fidèles de base, il y a beaucoup d'humour. On se moque beaucoup de la religion. C'est-à-dire que les histoires de curés, de bonnes sœurs, etc., il y en a des tonnes. Et donc,
mais,
là,
c'est anticlérical. Là,
c'est plutôt du comique social. Là.
C'est du comique social.
Oui.
Mais qui est sur la religion.
Oui, mais c'est pas de l'humour, c'est pas de l'autodérision.
Voilà, et c'est pas un humour de sagesse.
Vous racontez quand même dans votre Rire du somnambule une histoire de la tradition chrétienne. Alors c'est une histoire serbe, mais qui met en jeu Saint-Nicolas. Et donc, c'est pour montrer que justement, même les saints pouvaient...
Oui, mais là on est dans l'orthodoxie.
On est dans l'orthodoxie, oui, absolument. Oui. C'est peut-être qu'il y a une influence orientale. En tout cas, peut-être que je peux vous témoigner de ça. Donc, au temps où Saint-Nicolas arpentait encore cette terre, près de la mer, il rencontra un homme qui criait sans cesse « Dieu ne m'aide pas !» Il lui demanda « Que fais-tu ici ?» Et le pauvre diable répondit « Je prie Dieu !» Le saint alors lui dit que l'on ne prie point Dieu de cette façon-là, mais qu'on dit « Dieu, aide-moi, je t'en supplie ». L'homme consentit volontiers et aussitôt, il se mit à répéter la nouvelle prière. Saint Nicolas embarqua et il prenait le large lorsque l'autre soudain oublia la prière qu'on venait de lui enseigner. Et de la rive, il appela pour que le saint revienne et le lui répète. Mais quand il s'aperçut que le navigateur était trop loin pour l'entendre, en toute hâte, il ôta sa robe, l'étendit à la surface de l'eau, s'assit dessus, rama de ses mains à la poursuite du bateau. Il atteignit la barque à force de bras et héla Saint-Nicolas. « Hola, comment déjà tu m'as dit qu'il fallait prier Dieu ?» Émerveillé par ce miracle, le saint lui cria « Comme avant, comme avant !»
Ça m'évoque une histoire indienne dans laquelle il y a un maître, un gourou qui habite sur une île. Et il y a deux de ses élèves qui décident d'aller lui rendre visite, mais ils n'ont pas de bateau, ils n'ont rien. Alors, ils se concentrent énormément sur le personnage du gourou et ce qu'il enseigne. Et puis, comme ça, par mégarde, ils avancent dans l'eau et ils marchent sur l'eau. Et ils arrivent dans l'île et le maître leur dit « Mais comment avez-vous fait ?» Ben, il dit « On a marché sur l'eau. On a marché sur l'eau et puis, mais vous avez... Fait, ah ben, on a invoqué ton nom. Et on est marché sur l'eau en invoquant ton nom. » Alors le maître est tout épaté, les élèves repartent de la même façon, en invoquant le nom du maître. Une fois qu'ils ont disparu, le maître se met au bord de la rivière et dit « Oui, mais moi, au nom de quoi ?»
Oui, alors, donc tout ce qu'on vient de dire, en fait, montre qu'il y a quelque chose de très profondément lié à la question du langage dans l'humour. Oui. C'est-à-dire, c'est comment le langage peut rendre compte des choses et comme en réalité on constate qu'il ne peut pas rendre compte des choses, ni les noms, ni le langage, ni les définitions, ni les évocations, rien finalement n'arrive à vraiment aller au bout, à épuiser la réalité. L'humour en fait vient là pour nous montrer qu'il y a un hiatus et qu'en même temps le langage est fondamental.
Oui.
Donc c'est en soi-même un paradoxe que cette pratique de l'humour.
Oui, il y a un dicton zen qui dit « la parole est mensonge, le silence est imposture, entre les deux se tient la vérité ».
dünya onuruna meylini verme. Sen de kurtulmasın ecel elinden, ecel elinden. Ben filanım diye göğsünü germe, göğsünü germe. Sen de kurtulmasın ecel elinden, ecel elinden.
Vous êtes sur France Culture dans les Racines du Ciel. Nous sommes en compagnie de Jean-Louis Monoury et nous parlons de l'humour dans l'enseignement spirituel. Alors, il y a un humour dont on n'a fait qu'évoquer, dont on n'a pas beaucoup parlé. Je dois vous avouer que c'est celui qui me fait le plus rire, c'est l'humour juif. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, selon vous, d'où vient cet humour extrêmement puissant ?
Je crois qu'il vient de la condition malheureuse dans beaucoup d'époques de l'histoire du peuple juif. C'est-à-dire un peuple qui a été élu et qui n'en a reçu que des avanies ou des malheurs. Donc c'est une situation qui prête à l'autodérision sur le mode Dieu nous a désignés comme peuple élu, mais nous on n'avait rien demandé et ça nous
Il nous arrive que des tuiles.
Il nous arrive que des tuiles, oui. Voilà. Ce qui fait que la relation de l'humour juif avec Yahweh est une relation souvent de défis, de provocations, de ruses. Mais ça, c'est vrai aussi de l'humour soufi. Hein. C'est pas vrai que de l'humour juif. Hein. C'est une relation très intéressée. C'est-à-dire que le Tout-Puissant étant Tout-Puissant, on ne peut rien lui imposer. Donc on ne peut avec lui que biaiser, que tricher, etc. Par exemple, cette histoire de Nasreddin qui pourrait être une histoire juive où Nasreddin est pressé d'aller à un mariage, à une grande fête. Et tout d'un coup, il, dans un geste de précipitation malheureux, sa belle bague à laquelle il tient tant roule sur le sol. Et il regarde partout, il est très pressé, il se prosterne et dit « Allah, Allah, retrouve-moi tout de suite ma bague parce que je vais être en retard. Si tu me retrouves ma bague, je donne 30 dinars pour l'entretien de la mosquée. » Alors il se prosterne, puis prosterné, il voit la bague sous un meuble. Alors aussitôt, il la reprend et dit « Bon, Allah, je ne te donne rien parce que je l'ai retrouvé tout seul.
Oui,
et ça, c'est de l'humour juif. Voilà, c'est ça l'humour juif. Maintenant, on peut raconter des histoires qui sont effectivement des histoires de l'humour juif.
Ah, maman, moi, je vais vous en raconter une que j'aime énormément. Je l'avais mis dans ma pièce Bonté divine, d'ailleurs, qui était un peu aussi une pièce humoristique sur la religion. C'est un rabbin qui sort de la prière, qui est extrêmement concentré, qui marche, qui va se promener, qui dit « Dieu, je te remercie vraiment de m'avoir élu. On est le peuple élu et moi, tu m'as choisi à l'intérieur du peuple élu. » Puis d'un coup, il tombe dans un ravin. Et là, il s'accroche à une broussaille, il est suspendu, il est mort de trouille, il voit qu'il y a un vide vertigineux en dessous de lui. Et il hurle « Il y a quelqu'un !» Et puis arrive une voix du ciel qui dit « Mon fils, j'ai entendu ta prière, lâche ce buisson et mes anges vont venir te porter jusqu'en bas. » Et le rabbin de crier « Il y a quelqu'un d'autre ?»
Oui, et ça, c'est une histoire de Nasreddin aussi.
Ah bon ?
Oui, parce qu'il y a beaucoup...
circule.
Ça circule.
Vous savez, les Juifs étaient très nombreux en Afrique du Nord et en Turquie aussi, avant du temps de l'Empire ottoman. Et donc, il y a une interpénétration des deux traditions, ça c'est clair.
Mais en tout cas, ça dit bien ce que vous disiez, c'est ce décalage colossal entre effectivement...
Oui, par exemple, cette histoire où, pour moi, une des meilleures aussi, où il y a un homme qui va à la synagogue et qui insulte le Très-Haut, qui lui dit, mais enfin, comment ça se fait? Moi, je suis célibataire, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant, je suis pauvre, j'ai jamais eu de chance dans la vie, et tandis que mon voisin Salomon, il est riche, et puis tel autre, Mordecai, il a une femme magnifique, il a des enfants, et puis tel autre, il a toujours eu de la chance. Mais pourquoi? Et tout d'un coup, dans la synagogue, sous la voûte, il y a une voûte, il entend une voix céleste qui lui dit, parce que tu m'énerves.
Oui, alors ça, c'est de l'humour, effectivement, de la relation entre l'homme et Dieu. Et que finalement, parce que l'homme, ça l'énerve que Dieu soit si puissant. Donc, voilà. Il fait des blagues, évidemment. Mais peut-être que dans l'humour juif plus contemporain, la dérision, elle est plutôt sur la judéité, précisément. Oui. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est pour ça qu'il n'y a que des juifs qui peuvent faire de l'humour juif, évidemment. Sinon, ça devient de la xénophobie.
Ou en état, parce que quand j'en raconte une ou Frédéric, on est juif à ce moment-là.
Voilà, exactement. Mais c'est vrai que donc c'est aussi un rapport, peut-être que cet humour juif est tellement développé, on a quand même de très grands humoristes juifs, y compris en France,
oui.
Parce que justement, il y a cette idée qu'on est le peuple élu, mais on a quand même beaucoup de travers. Et alors simplement, on a le droit nous-mêmes de parler de nos travers, pas les autres.
Bien sûr, bien sûr.
En quelque sorte, y compris Woody Allen, je veux dire, c'est quand même un des plus grands humoristes juifs. Oui.
Mais d'ailleurs, il se moque pas beaucoup de la judéité, Woody Allen.
Quand même.
Il se moque de la vie.
Oui.
Non, mais lui, il est extraordinaire.
Quand
il dit, par exemple,
la
vie est insupportable, c'est qu'une suite de longues souffrances, mais le pire, c'est qu'elle s'arrête. Mais les blagues de Woody Allen, justement, c'est un des rares, pour moi, un des rares humoristes juifs qui parle assez peu de la judéité. Il plaisante de tout. Mais je trouve qu'il n'est pas centré sur l'aspect communautaire. Alors que la plupart des blagues juives sont effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, sont véritablement autour de la communauté, de l'élection.
Ou à l'instar de Nasreddin, il se moque des religieux aussi.
Exactement.
Par exemple, cette histoire que j'aime bien aussi, dans laquelle un rabbin en reçoit un autre qui est étranger à la communauté. Et alors il le présente en disant à la communauté, je vous présente le rabbin tel qui vient nous rendre visite. C'est un homme absolument remarquable par sa science, par sa piété. Alors, la liste des compliments continue et tout d'un coup le rabbin invité dit à l'autre, et surtout n'oublie pas l'humilité.
Vous voyez, dès qu'on parle des blagues juives, on est intarissable. Là, ça devient... C'est vraiment...
Ah non, moi, je suis intarissable sur Nasreddin. Hein.
Oui, aussi, parce que vous êtes un spécialiste.
J'en ai recueilli à peu près 1500 et je ne connais pas 1500 histoires.
Mais c'est vrai qu'il y en a un certain nombre dont on voit qu'elles ont interagi effectivement avec l'humour juif, avec l'humour persan, avec l'humour indien aussi.
Oui, aussi.
Qui est un peu différent.
Comme en musique. La frontière, elle passe à l'est de l'Inde. C'est avec la Chine et le Japon que vous vous trouvez dans un monde qui, même sur le plan de l'humour, est quand même différent, dont les ressorts sont différents.
Oui, parce qu'on a l'impression qu'en Inde, il n'y a pas une... Moi, je n'ai pas en tête
non, mais
beaucoup
y a des
d'humour dans l'hindouisme, à proprement parler.
Non, ça passe à l'est.
Oui.
Ça passe avec la Chine et le Japon. Quand, en musique, vous passez dans un univers musical qui est fondé sur d'autres principes, sur une autre gamme, enfin, etc. Et l'humour zen est très spécial. Hein.
Très spécial. Vous en citez quand même des histoires indiennes.
Oui, il y en a quelques-unes.
Par exemple, tout ce qui est la tradition de la fable. Alors, c'est peut-être de l'humour un peu différent de ce dont on vient de parler. Mais néanmoins, les fables qui ont donné, les fables de Bidpai, qui ont d'ailleurs certaines ont inspiré La Fontaine lui-même, il y a quand même cette idée d'enseigner par des situations où on voit...
Oui, mais c'est pas très drôle.
Ah si,
c'est
une sorte de plaisanterie. C'est plus des plaisanteries que de l'humour où on voit les animaux pris à leur propre piège, où on voit... Il y a quand même quelque chose, un élément de sourire, au moins, dedans.
Oui,
je pense pas... Et alors, je sais pas pour quelle raison, d'ailleurs, les Indiens auraient moins d'humour.
Mais il n'y a pas de raison. C'est-à-dire que l'hindouisme est quand même...
Comme le catholicisme
très
bien, sérieux.
Mais c'est quand même très très sérieux, puis c'est des mythes qui sont très lourds, enfin je veux dire, même peut-être certaines formes de bouddhisme, comme bouddhisme tibétain. Enfin,
il y a beaucoup d'humour dans le
bouddhisme tibétain.
Et le Dalai Lama passe son temps à rigoler, hein, il y a des gens très joyeux, un certain nombre de lamas, de maîtres tibétains, ils rient tout le temps.
Oui, mais le fait de rire,
quand on
parle d'humour de sagesse, c'est un humour, une autodérision qui fait partie de l'enseignement.
Non, mais il y a ça aussi, dans le bouddhisme tibétain. Mais ça, il se moque des lamas, des maîtres, des enseignants.
On revient au zen. C'est un humour très particulier. Par exemple, cette histoire qu'il est difficile d'interpréter en réalité, qui est très courte. D'ailleurs, les plus courtes sont presque toujours les meilleures dans toutes les traditions. Et le dicton le dit, mais il est vrai. Où il y a un disciple qui est avec son maître zen dans une pièce, et tout d'un coup, il regarde par la fenêtre, l'élève regarde par la fenêtre. Ah, il dit, tiens, voilà du schnock qui passe. Le maître lui dit, comment tu oses appeler une personne du schnock? Mais c'est irrespectueux, c'est honteux de dire ça. Alors le maître regarde, ah bah oui, t'as raison, c'est du schnock.
Mais c'est toujours pareil.
C'est pas facile. Qu'est-ce que ça veut dire?
Voilà, on est toujours sur un humour qui nous amène à dépasser le cadre limité du langage.
C'est un peu un koan, ça.
Ah oui, absolument. Et ça, c'est peut-être justement la différence, je pense, je reviens à l'humour tibétain, la différence entre l'humour tibétain et l'humour chinois ou japonais, il est là. C'est que chez les Tibétains, on est plus dans l'humour social, un peu comme on l'est, effectivement, on le disait, dans le catholicisme, on se moque beaucoup des religieux, etc. Alors que dans l'humour extrême oriental, il vise directement à faire éclater les concepts et à nous faire quitter le mental et à nous permettre finalement d'accéder à une vérité intuitive qu'on ne pourrait pas accéder par la raison, par les mots.
Et ça, c'est permis par la forme de sagesse qu'apporte le Bouddha, qui n'est pas une sagesse qui s'appuie sur une révélation divine. Voilà, c'est toute la différence. C'est une sagesse qui est une recherche d'accord parfait avec la réalité et qui est acceptée telle qu'elle. Voilà.
Vous n'avez pas du tout travaillé sur l'humour dans les traditions chamaniques ou africaines, etc. Non. C'est un autre univers encore.
Il faudrait beaucoup plus de moyens. Mais même pour faire une étude de Nasreddin complète, par exemple, Nasreddin se trouve raconté ou écrit dans plus de 30 langues. Oui. Différentes, qui ne sont pas des langues turques, des langues différentes. Donc il faudrait une équipe de linguistes pour faire un travail exhaustif, ce qui n'est pas possible.
Non, mais c'est déjà très bien tout ce
qu'il
faut. C'était pour savoir.
S'il faut se pencher sur toutes les. Il y a des dizaines, voire des centaines de langues africaines. Et je suppose qu'il y a l'humour est universel, ça c'est incontestable.
Oui, c'est peut-être ça qui est le plus intéressant en fait dans cette question d'humour, c'est qu'on puisse le traduire, alors que c'est si profondément lié aux questions de langue, de culture, on l'a vu, de religion, de manière d'être dans le monde, de rapport avec les autres, etc. C'est très très ancré finalement dans une culture. Et vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait évidemment partager une culture pour pouvoir rire. Eh bien oui et non, puisque toutes ces histoires venues du monde entier, on en a ri ensemble ici. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un élément. Peut-être que c'est une des choses les plus universelles, étrangement, en même temps qu'elle est la plus culturellement connotée.
Parce que la sagesse est universelle. Mais je pense que ça vient aussi du fait que ce n'est pas un humour qui repose sur le langage. Ça ne repose pas sur des jeux de mots. Donc c'est facile à traduire. C'est plutôt un humour de situation. L'humour juif, c'est un humour de situation. Ce n'est pas le fait d'être raconté en yiddish qui changerait, qui changerait la nature de ce qu'on raconte. C'est indépendant.
Oui, c'est en fait, ça nous remet dans un rapport nouveau et frais à la réalité, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit.
C'était Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélian Var. La semaine prochaine, nous recevrons Marc de Smet pour parler de la spiritualité au quotidien. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. Dans quelques instants, vous retrouvez le journal de la rédaction. Très bon dimanche à tous.